Les deux dernières fois, nous avons fait un petit détour après avoir terminé l'étude de la lettre aux Hébreux. Je vous avais partagé qu'en fait, j'avais eu le privilège, la chance de pouvoir, entre guillemets, la chance de pouvoir faire un camp de randonnée avec des jeunes adultes et qu'on avait des moments de méditation tous les jours. Dans la beauté de la nature, on était près de Briançon, dans des endroits spectaculaires, et c'était vraiment des moments très très forts, très spéciaux. Mais j'avais discuté avec un des jeunes qui était là, un jeune couple, et le jeune homme me disait: Pierre, j'ai une question que j'ose pas te poser. Et il me disait, en fait, c'est que j'ai rencontré, lors de notre voyage de noces au Népal, des bouddhistes. Et je ne peux pas te dire la sérénité qu'ils avaient, leur gentillesse à notre égard, et ça me pose question. Je me demande pourquoi est-ce que les bouddhistes auraient tort quand on voit leur vie et leur amour pour les gens qui viennent chez eux. Je me dis, moi, en tant que chrétien, souvent, je ne suis pas aussi aimable avec ceux qui nous rendent visite. Et ma réponse, ça a été de lui dire, il y a les seules mauvaises questions, c'est celles qu'on ne pose pas. Et je lui dis, c'est une très bonne question, et on a fait une petite étude là-dessus, brièvement, de savoir, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent, pourquoi le christianisme serait-il la seule vraie religion ? Alors on peut dire d'abord parce que la Bible le dit, mais ça pose une autre question: pourquoi est-ce que la Bible serait plus digne de foi que la Bhagavad Gita ou l'annuaire des téléphones ou le Figaro ou le Canard enchaîné? Donc on a regardé une première fois sur pourquoi la Bible est-elle un livre, un recueil de textes si particulier, si spécial. Pourquoi est-ce qu'on peut penser que c'est peut-être la parole de Dieu? Donc je vous renvoie à ces études qui sont en ligne. Et la deuxième étude, bien sûr, c'était pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi est-ce qu'il est vraiment le Messie que les Juifs attendaient? Pourquoi est-ce qu'il est le Sauveur du monde? Et donc on a passé ces deux dernières semaines à parler de ces sujets. Et ça m'a donné l'idée de continuer dans le passage qu'on va aborder aujourd'hui. Une des caractéristiques de la Bible, on a vu son unicité, le fait qu'elle a été écrite sur une période de 1500 ans, sur trois continents, par plus de 50 auteurs, qu'elle a en trois langues et qui a une harmonie absolument fantastique. Et on a regardé ce qu'elle dit, on a parlé des prophéties qui sont uniques à la foi chrétienne, et on a juste touché sur un phénomène, une dimension qu'on ne trouve dans aucune autre religion, entre guillemets, c'est la notion de grâce. La grâce de Dieu, on ne la trouve que dans la Bible, que dans la foi chrétienne. Et puis après, sur Jésus-Christ, on a vu aussi comment il avait été prophétisé, comment il était unique, comment il avait vécu une vie absolument irréprochable, qu'il avait déclaré être Dieu par ses propos. C'est pour ça que les Juifs voulaient le mettre à mort, ils pensaient qu'il blasphémait. Mais soit, lorsqu'il disait « Je suis Dieu », il mentait, et rien ne laisse à supposer que c'était un menteur. Toute sa vie montre que c'était quelqu'un d'une extrême probité morale, d'une excellence morale au-dessus de tout soupçon. Ou alors c'était qu'il était fou. Il était un peu dérangé, comme certaines personnes vous disent, moi je suis Napoléon. Avec le chapeau. On les enferme, ces gens-là. Jésus n'avait rien d'un dérangé mental. Toute sa vie, tout ce qu'on en connaît, montre que c'était quelqu'un d'une grande sagesse, une sagesse infinie, une sagesse d'en haut remarquable. Et donc, c'était pas un fou, c'était pas un menteur. Donc s'il a dit être Dieu, c'est qu'il disait la vérité. Et cette vérité, on peut la rejeter à ses propres périls, ses risques et périls, soit on peut l'accepter, l'embrasser. Et on a vu aussi l'influence qu'il a eue dans la vie de milliers, de millions, peut-être de milliards, je ne suis pas sûr, de personnes au cours de l'histoire. Et lorsque des collègues, des parents, des amis mettent en cause votre foi chrétienne, demandez-leur une petite question très simple. Montrez-moi une seule personne qui vous ait dit, qui vivait une vie mauvaise, entre guillemets, avec des tas de problèmes, et puis un jour, un beau jour, ils ont eu la lumière, ils se sont convertis à l'athéisme. Et leur vie a complètement été radicalement transformée. D'un seul coup, ils ont été remplis d'amour les uns pour les autres, pour les gens autour d'eux. Leur vie a pris un sens fantastique. Ils avaient un but pour vivre. Cherchez autour de vous une seule personne qui vous dise « Je suis devenu athée, ça a été merveilleux. » On va aborder un passage, une lettre de Paul qui a révolutionné la vie de grands personnages de l'histoire de l'Église, mais aussi des milliers, des millions de personnes. Je veux bien sûr parler de la lettre aux Romains. Je vous invite à vous y tourner avec moi. C'est donc dans le Nouveau Testament, après les Évangiles et le Livre des Actes. Et cette lettre, qu'on appelle peut-être dans vos Bibles, si elles sont pas les Bibles, les versions les plus récentes, on appelle ça une épître. Une épître, c'est simplement une lettre. Et cette lettre, on va voir qu'elle a, en fait, elle a été sans doute le document le plus influent de l'histoire de l'humanité. Le document le plus puissant jamais écrit par l'homme. Et en abordant cette étude, c'est vrai que je me demande l'aide de Dieu, parce que c'est une puissance atomique qu'on touche. On va prier pour demander l'aide du Seigneur. Seigneur, merci pour cette lettre écrite par l'apôtre Paul destinée aux habitants de cette ville de Rome, la capitale du monde de l'époque. Et Seigneur, elle a montré la puissance de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu en la personne de Jésus-Christ envoyé pour nous sauver, Seigneur. Tu vois combien c'est intimidant de vouloir essayer de faciliter la compréhension, d'expliciter ce texte magistral. Seigneur, aide-nous, aide-moi à être fidèle à ce texte et à vraiment voir son influence sur notre assemblée, sur les personnes qui l'entendront au cours des semaines à venir. Et pour ceux qui l'entendront sur le net, Seigneur, que tu m'aides, que tu me donnes des paroles de sagesse, de connaissance, de prophétie, Seigneur, que tu utilises un don d'enseignement, Seigneur, pour pouvoir la mettre en valeur et la faire vraiment comprendre telle que ton Esprit Saint l'a transmise à l'apôtre Paul et telle que tu veux que cet Esprit Saint nous restitue ces vérités. Parce que ces vérités, elles ont la puissance explosive de radicalement transformer nos vies, Seigneur. Merci pour son influence dans ma vie et dans la vie d'innombrables personnes, Seigneur. Sois glorifié. Amen. beaucoup de d'auteurs, de commentateurs bibliques ont parlé de cette lettre aux Romains comme l'œuvre existante la plus profonde. Un commentateur britannique et biblique, F.F. Bruce, disait que cette lettre avait libéré l'intelligence des hommes en les ramenant à une compréhension de l'essentiel de l'évangile de Christ et avait provoqué des révolutions spirituelles. Trois des plus grands leaders de l'Église dans tous les temps ont dû leur conversion à la lecture de cette lettre. Il y avait aujourd'hui on dirait un Algérien, c'était en fait un Kabyle, il est devenu le grand Saint Augustin. Il est mort à Annaba, la ville aujourd'hui en Algérie. À l'époque, c'était Hippone, et la ville était assiégée par des Vandales. Pas des bons Ariens, mais vraiment des Vandales, des peuplades venues du nord de l'Europe, qui ont assiégé cette ville, et il est mort au cours de ce siège. Il était né en 354 à Tagaste, et on parle de lui, c'est un quartier à Paris, il y a un boulevard, il y a une station de métro, il est bien connu des théologiens qui regardent un peu l'histoire de la théologie. En fait, c'était un playboy à l'époque. Il vivait dans un empire romain en pleine décrépitude morale, mais il avait un sentiment de culpabilité à cause de ses péchés. Et un jour qu'il était vraiment dans une période d'angoisse spirituelle, il s'est retrouvé dans le jardin de la maison familiale. Il y avait une copie de cette lettre aux Romains que sa maman, qui est devenue Sainte Monique, avait posé par terre. Il avait entendu un enfant qui chantait dans la rue et qui disait « Ramasse et lis, ramasse et lis ». Je ne sais pas, c'était peut-être une comptine de l'époque, mais il avait pensé que Dieu voulait peut-être lui parler par cet enfant. Il avait donc pris le manuscrit et il était tombé sur le chapitre 13, les versets 13 et 14, qui dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, sans excès de table ni de boisson, sans luxure ni dérèglement, sans discorde ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Et lui, qui était un playboy, qui vivait dans la débauche, avait été transpercé au cœur par ces versets qu'il avait rencontrés de façon spectaculaire, brutal, et du jour au lendemain, il avait consacré sa vie à Dieu. Et il avait compris non seulement la crise de son péché, mais il avait trouvé aussi la solution en Christ. Un autre grand homme de l'histoire de l'Église, c'est Martin Luther, qui était un prêtre catholique. Et il était tourmenté par la situation de corruption de l'Église catholique, qui servait plus à des gens qui voulaient la puissance à l'acquérir, à des tromperies. On vendait ce qu'on appelait les indulgences. Lorsque les gens péchaient, s'ils achetaient des prières ou ce qu'on appelait des indulgences, ils pouvaient être pardonnés. Et il sentait bien dans son cœur que c'était mauvais, c'était faux, c'était de l'hypocrisie, mais il était dans cette religion. Il avait du mal à s'en dépêtrer. Et puis l'histoire nous dit qu'en fait, il lisait le livre de Romains et qu'il avait été frappé par ce verset 17 du premier chapitre que nous allons regarder un peu aujourd'hui, où il est dit que le juste vivra par la foi. Et justement, lui, il essayait d'être juste. Et là, il a compris d'être juste, d'être moral, d'avoir une vie morale au-dessus de tout reproche. Mais il a compris, en fait, qu'il avait mis le bœuf avant la charrue, ce qui est bien. Non, il avait mis la charrue avant le bœuf. Il avait mis les choses à l'envers. C'était la foi en Jésus-Christ qui nous rendait justes. On a étudié la lettre aux Hébreux il y a quelque temps et on a noté qu'en fait ce passage, le juste vivra par la foi, était repris 3 fois dans le Nouveau Testament. Ça venait à l'origine d'Habacuc, mais c'est une réalité profonde que la justice de Dieu, cette probité morale qu'on trouve chez Dieu, on ne l'acquiert pas en essayant de faire des efforts pour nous réformer, mais en venant par la foi à Jésus-Christ qui, lui, vient alors nous transformer. Et ça, c'est une révolution à la Copernic. On s'aperçoit que le centre du monde, ce n'est pas la Terre, mais que la Terre tourne autour du Soleil. Comprendre que la grâce de Dieu, c'est ce qui nous sauve et ce n'est pas nos efforts qui nous sauvent. Ce qui est intéressant, c'est, on y reviendra, je laisse ça pour... il a écrit et ça a conduit Luther à s'opposer aux responsables corrompus de son époque et de susciter un des plus grands réveils de l'histoire qu'on a appelé la Réforme, dont on va célébrer le 300e, le 400e, le 500e, 500 bien sûr, anniversaire au début octobre. Il a écrit, cette épître est vraiment la plus importante du Nouveau Testament et l'évangile le plus pur et mérite non seulement que chaque chrétien le connaisse mot à mot par cœur, mais aussi qu'il s'occupe de l'étudier chaque jour comme le pain de l'âme. Il ne peut jamais être trop lu ou trop étudié, et plus on passe de temps avec, plus précieux il devient et plus son goût s'améliore. Et l'histoire dit qu'en fait, il avait quelqu'un qui le suivait chaque jour et qui lui lisait la lettre aux Romains. Alors vous dites, moi j'ai pas de serviteur ou d'aide, d'adjoint qui peuvent faire ça, mais vous avez un portable. Vous pouvez vous faire lire la lettre aux Romains par votre iPhone ou votre appareil Android ou votre Samsung, et vous pouvez être aussi au bénéfice d'avoir vraiment cette épître qui devient une partie de vous-même. Jean Calvin, le Français qui a dû fuir à Genève, disait « Si nous comprenons cette épître, une porte nous est ouverte pour la compréhension de toutes les saintes Écritures. C'est une clé. » Plus proche dans le temps, quelqu'un qui s'est converti en 1738, c'est encore vieux, s'appelait John Wesley. Il était déjà pasteur et missionnaire, mais il n'avait pas compris la vérité de la lettre aux Romains. Et il avait entendu quelqu'un lire l'introduction de Luther sur l'Épître, et il dit qu'il avait senti son cœur se réchauffer d'une façon étrange. Et lui, il a été à l'origine du grand réveil évangélique du XVIIIe siècle en Angleterre et aux États-Unis. Et nous sommes héritiers, les églises évangéliques, de ce réveil qui a utilisé encore la lettre aux Romains. Plus près de moi, mon pasteur Wayne Taylor, que certains connaissent pour l'avoir rencontré soit la semaine dernière, soit dans les années où il est souvent venu nous rendre visite, lui aussi, quand il était jeune, il avait été éduqué dans un milieu chrétien très légaliste. Et il disait que chaque dimanche, il revenait se convertir. Et puis un jour, avec son frère, ils étudiaient la lettre aux Romains, et ça a été une révélation de découvrir la grâce de Dieu, que Dieu, Jésus-Christ a tout fait pour nous, que tout ce que nous devons faire, c'est mettre notre foi en ce qu'il a fait pour être radicalement transformés. Certains ont dit que c'était la constitution chrétienne. On l'appelle des fois le cinquième évangile ou l'évangile de la grâce. C'est vraiment une description de la puissance de Dieu à l'œuvre dans les ruines de l'humanité. Et ce qui est merveilleux, c'est de dire qu'aujourd'hui, nous pouvons nous attendre. Je prie pour que nous ayons tous une anticipation des choses que Dieu va faire dans nos vies, dans la vie de l'Église, dans la ville de Nice, dans notre travail avec les autres églises, qui elles aussi doivent être touchées par l'Esprit Saint, pour faire de belles et grandes choses. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, c'est une lettre, j'ai dit. À l'époque, on écrivait sur des rouleaux de papier ou de manuscrits venus d'animaux. Et donc, lorsqu'on recevait une lettre, pour savoir qui était l'auteur, s'il fallait faire comme aujourd'hui, regarder à la fin du texte pour voir qui avait signé, on aurait eu pas mal de mal à aller voir à la fin du rouleau. Donc, ils indiquaient en tête qui ils étaient. Et chaque lettre, il faut se poser la question, qui a écrit la lettre ? Où et quand a-t-elle été écrite ? À qui était-elle destinée ? Et pourquoi elle a été écrite ? L'auteur, le lieu, la date, le destinataire et la raison. Un peu comme quand vous faites un email, ces informations sont déjà pré-mâchées. Et puis, peut-être dans le titre de votre email, vous donnez la raison, mais le destinataire, c'est qui a envoyé, et le lieu et la date sont souvent indiqués. Et puis, quel est le message ? La cinquième question, pourquoi ça a été écrit, mais quel est le contenu du message ? On va lire ensemble. Les sept premiers versets de l'épître de Paul aux Romains. Je lis dans la version qu'on appelle la version 21, qui a l'avantage et des fois l'inconvénient de remplacer des termes qu'on trouve dans le texte original par une signification, mais ça peut aider à la lire sans avoir trop d'arrière-plan. Lisons ensemble. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. Et vous en faites partie, vous aussi, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Rome bien-aimés de Dieu. Appelés, saints, là il est dit appelés à être saints, ce n'est pas le texte original, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il répond là à nos questions. Qui est l'auteur ? C'est Paul. C'était un chef religieux juif. Il était membre des pharisiens et même du conseil des pharisiens, pas des parisiens. Les pharisiens qui étaient des gens qui ont qui ont gardé dans l'histoire, on parle de pharisianisme, pas de parisianisme, encore une fois. Ils donnaient une grande importance à la parole de Dieu et ils s'attachaient à lui obéir de façon des fois un peu trop légaliste, sans comprendre cette réalité de la grâce de Dieu. Mais ils avaient le mérite de vraiment d'avoir préservé la parole et de la respecter. Comme je l'ai dit, un de leurs problèmes, c'était de privilégier la lettre de la parole et d'agir de façon légaliste. Le mot pharisien, ça voulait dire ceux qui sont séparés du commun des mortels et surtout des païens. Les païens, les non-juifs qui étaient païens, ils les considéraient comme du combustible pour les flammes de l'enfer. Ils avaient un a priori très, très orgueilleux sur leur propre situation. Et Saül, c'était l'ancien nom de Paul, il était très... C'était un grand persécuteur de ceux qui avaient la foi en Jésus-Christ, dans cette nouvelle foi qui avait été amenée par Jésus-Christ et ses apôtres. Il était légaliste. Et une chose qui est formidable, c'est qu'il a été radicalement transformé. Certains d'entre nous viennent d'un milieu un peu pharisien, où on pense qu'on est sauvé par la grâce, mais qu'après il faut faire des efforts pour continuer à mériter cette grâce. Et j'aime bien dire que des fois, on vit en banlieue pharisienne. On n'est jamais loin du pharisianisme. Surtout quand on juge les autres et leur démarche. Mais tout au long de la lettre, on va nous mettre en garde contre ce légalisme et nous faire valoir la beauté, la puissance transformatrice de la grâce de Dieu que nous devons recevoir et exercer vis-à-vis des autres. Paul, Pierre dira plus tard que c'était quelqu'un qui n'était pas toujours facile à comprendre, donc il va falloir s'accrocher. Je vous invite à lire les versets qui suivront la fin de l'étude lorsqu'on termine le dimanche, de vous préparer, de vous poser des questions pour être à même de recevoir des réponses encore avec plus d'appétit. Il est dit dans le livre des Actes que Saül approuvait le meurtre d'Étienne, un des diacres de l'Église primitive. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. C'est une façon pour Dieu, des fois, la persécution, de multiplier l'annonce de l'Évangile. S'il n'y avait pas eu cette persécution, ils seraient restés bien tranquilles dans leur club de Jérusalem. Là, ils sont partis sauver le monde. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent sur lui de grandes lamentations. Or, Saül ravageait l'église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il nous dira plus loin qu'il avait été témoin du meurtre d'Étienne. Et le Seigneur, sur la route de Damas, l'a séparé, pas des païens, mais de la selle de son cheval. Il y a une grande lumière qui a brillé, une brière qui a allumé, je plaisante, une lumière brillante qui l'a jeté à terre et il s'est retrouvé, il a entendu la voix du Seigneur qui lui disait: « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? » Et il a répondu, il avait déjà un certain bon jugement, il a dit: « Qui es-tu, Seigneur ?» Il savait que c'était Dieu qui l'interpellait de la sorte, et Jésus lui a répondu: « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et puis dans le livre des Actes, au chapitre 9, il nous a expliqué comment Dieu l'a envoyé voir un dénommé Ananias qui lui a dit qu'il allait être utilisé par Dieu, qu'il allait souffrir de grandes choses. Mais Dieu l'avait choisi avant même que Paul, ça veut dire petit, le petit, il avait trouvé que son nom de roi, Saül, c'était un nom trop glorieux, qu'il était vraiment indigne d'aucun honneur et qu'il voulait être le petit, le plus petit. Il nous dira même qu'il est le plus grand des pécheurs, le plus petit des serviteurs de Dieu. Il a été élu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut dans son amour. Et il a eu un ministère fantastique. Il a écrit 13 des 27 livres qui composent le Nouveau Testament, si on pense que ce n'est pas lui qui a écrit la lettre aux Hébreux, ce que beaucoup pensent. Il a été ce chef radicalement transformé par une rencontre personnelle avec Dieu. Cette voix, cette lumière, et du jour au lendemain, il a été radicalement transformé. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin d'être radicalement transformé dans la façon dont vous vivez votre foi chrétienne. Est-ce que vous venez ici parce que vous aviez un grand-père qui était pasteur et que vous aviez une grand-mère qui priait pour vous? Tant mieux, ce sont des bonnes choses. Mais est-ce que vous avez vraiment rencontré Jésus-Christ dans sa réalité, dans sa grâce? Ou est-ce que vous êtes encore à vouloir essayer de mériter son amour? Cet évangile de la grâce, il va vous montrer combien Dieu vous aime personnellement. Est-ce que vous êtes convaincu réellement de ce que Dieu, quand il pense à vous, il a le sourire dans son cœur? Ou est-ce que vous dites, oui, je sais, si ma vie était plus propre, si mes pensées étaient plus pures, si mon service était plus grand, plus désintéressé, là, il m'aimerait vraiment. Mais si vous êtes à lui en Christ, il vous aime au point d'avoir donné sa vie pour vous sauver. Je crois que l'Église ne peut vraiment être l'Église que si chaque membre de l'Église, pas membre au niveau de la loi de 1901, mais partie prenante, engagée, si chacun est vraiment convaincu intimement de l'amour puissant de Dieu, non pas pour l'Église, pas pour les autres, mais pour Pierre, pour Nona, pour Diego, et ainsi de suite. Vous pouvez mettre votre nom. Jésus a tant aimé Pierre, il a tant aimé Viviane qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il vous a tant aimé. Il nous aime tant. On est là. Ah, oui. J'ai des choses à nettoyer, j'ai des choses à purifier. C'est parce que vous n'avez pas encore compris son amour. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, Paul va nous dire dans le chapitre 2. C'est lorsqu'on réalise combien il nous a donné, combien il veut nous donner, combien il nous aime, qu'on est transformé. On n'ose plus se laisser aller à de mauvaises habitudes, des péchés, des mauvaises pensées. On lui demande son aide. « Aide-moi, Seigneur !» Et il nous aide. La grâce de Dieu, ça change tout. C'est le titre d'un livre écrit par le pasteur Chuck Smith à l'origine du mouvement Calvary Chapel. Mais il est facile, comme dans la lettre aux Hébreux, de se laisser dériver et de revenir à ce que le diable veut. Il veut que nous soyons enchaînés par le légalisme, par « si tu fais ça, Dieu va t'aimer ». Non, Dieu nous aime, et si nous recevons cet amour, il vient nous transformer de fond en comble. Alléluia. Lieu et date pour répondre à ça a été écrit probablement en l'an 57, pendant le troisième voyage missionnaire de Paul dans la ville de Corinthe, qui était connue comme la capitale de la débauche du monde de l'époque. Rome n'était pas loin derrière, mais il y avait une expression pour être vivre une vie de débauché, on disait « il corinthianise ». C'est un peu comme aujourd'hui, on parle de Miami Vice. On pense à Miami, à la Floride ou à Hollywood, des endroits où les perversions sont cool. Destinataire, on a vu que c'était les chrétiens de Rome. Et puis, les raisons, il y avait une raison personnelle. Paul était citoyen romain, comme il est dit dans le livre des Actes, mais il ne connaissait pas l'église de Rome, qui était composée de juifs et aussi de païens. Il avait le désir d'aller à Mallorca, d'aller en Espagne. Je ne sais pas si vous voulez aller à Mallorca, à Ibiza sans doute pas, ou peut-être que c'était un bon endroit. Il voulait s'arrêter à Rome, la capitale de l'Empire, le centre du monde de l'époque. Et il est dit qu'il formait d'abord le projet d'aller à Jérusalem, et puis après s'y être rendu, il disait « il me faudra aussi voir Rome » dans Acte 19. Donc il avait une raison personnelle, il voulait leur parler, il voulait leur présenter son désir de leur rendre visite. Et on verra au chapitre 16 que bien qu'il n'ait jamais encore été à Rome, il y avait eu à la Pentecôte des gens qui venaient de Rome, et il y avait une église qui avait été constituée à Rome. Il y avait beaucoup de voyages de personnes qu'il connaissait, parce qu'il va citer près d'une dizaine ou une vingtaine de personnes qui étaient à Rome et qu'il connaissait déjà. Les gens voyageaient déjà beaucoup. Il n'y avait pas EasyJet, il n'y avait pas le RER ou le TGV, mais les gens avaient à cœur de répandre la bonne nouvelle. Et puis, il voulait, c'est une raison théologique, souvent les lettres de Paul étaient écrites pour corriger des problèmes dans les églises, que ce soit les habitants de Thessalonique, de Corinthe et d'autres endroits, de Colosse. Là, il voulait résumer, présenter clairement et simplement le message de l'Évangile. Et puis donc, le message, c'est cette présentation d'Évangile. Il veut établir un rapport avec ses interlocuteurs, ses lecteurs, et avec nous aujourd'hui. Il présente, pour ainsi dire, ses lettres de recommandation dans les versets que nous avons lus, les versets 1 à 7. Paul, on a dit, ça voulait dire le petit. Il est dit que Jésus disait que parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et c'est comme si Paul, il avait cette secrète ambition d'être le plus grand serviteur, mais il savait que ça passait par reconnaître qu'il était le plus grand des pécheurs et le plus petit. Il dira dans Éphésiens 3, 8, « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été d'accorder, d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle, la richesse insondable du Christ. » Plusieurs passages semblent indiquer que c'est peut-être lui qui présentera l'Église au mariage à Jésus lors du mariage de l'agneau. Les fêtes du mariage de l'agneau, la noce dont il est question dans l'Apocalypse. Et il y a plusieurs passages dont 2 Corinthiens 11, 2 qui dit « Je vous ai fiancé à un seul époux » en disant qu'il était jaloux de ces saints de Corinthe. « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter comme à une vierge pure. » Et il y a deux autres passages où il est question de présenter, peut-être, qu'il aura cet honneur. Le mot, lorsqu'il dit « Je suis un serviteur de Jésus-Christ », serviteur, c'est le mot « doulos ». Jésus lui-même a utilisé ce terme dans Philippiens 2, 7, Paul disait « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, dont la condition était celle de Dieu, Il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de doulos, d'esclave, en devenant semblable aux autres, aux hommes, pardon, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Le concept d'esclave, c'était quelque chose de très commun dans l'Empire romain. On pense qu'il y avait, dans la ville de Rome seule, il y avait probablement 600 000 esclaves, et dans l'Empire, il y avait 6 millions d'esclaves. Et le doulos, c'était un esclave qui s'était, après la période d'esclavage pour laquelle la personne avait été achetée par un maître, elle pouvait être soit libérée, soit décidée de rester avec son maître. Et si le maître, si l'esclave disait à son maître, « Je veux rester auprès de toi parce que tu es un bon maître », il l'emmenait, le maître l'emmenait à la porte de la ville et le mettait contre une porte en bois et il lui transperçait le lobe de l'oreille avec un coup de clou. Et on mettait un anneau à l'oreille qui disait que l'esclave était maintenant un esclave volontaire. Donc ça aussi, c'est aussi quelque chose que vous pouvez partager avec les jeunes qui ont des tatouages et des, pas les tatouages, mais des anneaux dans le nez, dans les oreilles. Oh, c'est comme les doulos. Tu es un esclave de quoi? Tu es un esclave de qui? Il était esclave de Jésus-Christ. Là, il est dit qu'il était serviteur, mais c'est vraiment le terme qui veut dire un esclave qui n'a plus de sa propre volonté, qui n'exerce plus, qui est au service nuit et jour de son maître. Il était serviteur de Jésus-Christ, on va beaucoup parler de Jésus-Christ. Il était aussi appelé apôtre. C'était un apôtre, c'était quelqu'un qui était envoyé en mission par une autorité comme un empereur, un roi, un gouvernement, et qui était détenteur d'une autorité déléguée par le roi, l'empereur ou l'État. Il y avait trois conditions pour être apôtre. Il fallait avoir vu Jésus-Christ ressuscité. Et lui-même disait, parce qu'il avait fait cette expérience sur la route de Damas, où il avait perdu la vue, mais il avait vu cette lumière, il savait que c'était Jésus-Christ qui lui avait parlé. Il disait, après eux tous, parlant des autres apôtres, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton, le moindre des bébés. Puis il disait dans 1 Corinthiens 9, « Ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Donc il avait cette qualification pour être apôtre au sens des apôtres du Nouveau Testament. Alors il y a le ministère d'apôtre aujourd'hui, ce n'est pas avec un grand A, c'est des personnes qui sont utilisées de façon puissante pour répandre la bonne nouvelle en implantant des églises, en voyageant. Mais les apôtres, ils n'ont pas été remplacés. Ils constituent une partie de la Nouvelle Jérusalem. Ils sont, et donc Paul peut légitimement, de ce point de vue-là, se réclamer d'être apôtre. Il avait vu Jésus-Christ ressuscité. Il avait aussi une deuxième condition, c'est d'avoir exercé des dons miraculeux. Et là, dans le livre des Actes, on voit qu'il pouvait dire à l'invalide « Lève-toi droit sur tes pieds » et la personne se levait d'un bond, se mettait à marcher. Il leur accordait à Iconium, parlant de lui et de ses acolytes, de voir des signes et des prodiges se produire par leurs mains. Dieu avait donné ces dons miraculeux à Paul. Et puis la troisième condition, c'est d'être choisi par Dieu pour la tâche. « Souvent aujourd'hui, vous avez des gens qui s'autoproclament prophètes, apôtres, qui se donnent des titres ronflants. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous vous appelez vous-même ou ce que les autres vous appellent, c'est que Dieu vous dise tu seras pasteur, Dieu vous dise tu seras missionnaire. C'est cet appel reçu directement par Dieu. Alors comment on le reçoit? On peut le ressentir spirituellement, on peut en demander la confirmation auprès d'autres personnes mûres dans la foi, on peut aussi, le Seigneur peut nous donner des versets qui nous parlent, ou quelqu'un nous donne un verset qui va nous confirmer dans un appel. Mais ce qui compte, c'est la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas aux hommes de décider ce qu'ils vont faire. Et Paul dira dans Galates 1, 11, « Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Ce n'est pas parce qu'il avait entendu Pierre ou Jacques ou d'autres. « Je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Il a passé du temps dans la solitude en Arabie, dans le désert ou dans une région peu peuplée. » Et il a reçu de Dieu l'Évangile. Et après, il a même pu confirmer en allant voir les apôtres que c'était bien le même Évangile dont il parlait. Et c'était un signe qu'il était un apôtre. Il était mis à part. C'est un mot qui, littéralement, veut dire hors horizon. Mis à part. Lui qui voulait être séparé des païens, des non-juifs ou des juifs qui ne croyaient pas en Dieu, il voulait s'en séparer, mais là, Dieu l'a mis à part. C'est littéralement le mot qui veut dire changement d'horizon. Il vivait dans un cadre. L'idée, c'est qu'il a été enlevé de ce milieu pour être transporté dans un autre élément. Et cet élément, c'était la religion avec toutes ses règles, toute sa féroce envie de brimer, de tuer l'Église dans l'œuf, en quelque sorte. Il avait été transporté, mis à part, dans un nouvel état de vue du monde, dans une nouvelle conception du monde où il savait que c'était Dieu qui régnait et qu'il l'appelait à annoncer l'évangile de la grâce. L'évangile, justement, vous savez ce que c'est? C'est la bonne nouvelle. Ça veut dire euangelion. C'est euphonie, c'est un son agréable lorsqu'on fait des liaisons pour l'euphonie. C'est donc une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on l'accepte, soit on la rejette. Mais on ne peut pas rester neutre si on vous donne une bonne nouvelle. On voit que Dieu est la source, l'évangile de Dieu, verset 1. Verset 3, Jésus est concerné. Ce message, cet évangile, il concerne son fils, verset 3, qui en tant qu'homme est né de la descendance de David et qui, de point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection. Un autre endroit qui nous donne l'évangile, c'est 1 Corinthiens 15, versets 1 à 8. Et ça aussi, c'est un bon passage à connaître ou à savoir retrouver. C'est donc 1 Corinthiens 15, 8, 1 à 8 plutôt. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Et il nous dit, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, Pierre, son nom grec, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart à l'époque sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme, comme à un avorton. En effet, je suis le plus petit des apôtres et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez reçu, vous avez cru. Donc l'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. C'était en accord avec les Écritures, toutes les prophéties. Il a été enterré et il est ressuscité le troisième jour. Là aussi, comme c'était prophétisé. Et puis il s'est montré. Et c'est ça, l'essence de l'évangile. C'est bien de le savoir. Si on vous demande qu'est-ce que tu crois, on a expliqué qu'en fait cet évangile, il a été promis dans l'Ancien Testament par 1500 ans de prophétie. La Genèse, on parle des fois du proto-évangile, c'est-à-dire l'ancien évangile, la première fois où cette bonne nouvelle est annoncée, c'est dans la Genèse 3, versets 13 à 15. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » L'inimitié entre toi et parlant au serpent et la femme et sa descendance, il allait écraser le talon. C'est lorsque Jésus est mort à la croix, il a pu penser que c'était une victoire, qu'il avait tué pour toujours le Fils de l'homme, mais non, finalement c'est la descendance, c'est Jésus qui a écrasé la tête de Satan. Ça, c'est dès le départ de la Bible. Et on a vu, il y a peu de temps, en parlant des prophéties, que dans le chapitre 5 de la Genèse, il y a une prophétie qui est annoncée si l'on met à la suite le sens des noms des patriarches. Dans la Genèse 5, on voit que Adam a été suivi par Seth, Enoch, Kénan, Mahalaleel, Yéred, Enoch, Mathusalem, Lémec et Noé. C'est parlant, non? Non. Il faut que je vous aide un peu, parce que moi-même, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais en hébreu, Adam, c'est homme. Seth, c'est réservé. Enoch, c'est mortel. Kénan, c'est le chagrin. Mahalaleel, Dieu béni. Yéred vient d'en haut. Enoch, c'est l'enseignant. Mathusalem, qui est bien connu, c'est sa mort amènera. Point de suspension. Lémec, c'est pas les types, c'est Lémec, ça veut dire ceux qui désespèrent. Et puis Noé, c'est le repos, c'est la consolation. Donc si on reprend ces noms, on a l'évangile qui nous annoncé de la façon suivante: à l'homme est réservé un chagrin mortel, mais le Dieu béni viendra d'en haut, enseignant que sa mort amènera à ceux qui désespèrent repos et consolation. Alléluia! Il n'y a pas d'autres religions qui ont ces prophéties, qui ont cette richesse, cette vérité. N'ayez pas honte de l'évangile. On a vu le côté divin de l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. On revient à Romains. Et puis, c'est aussi, on voit son côté humain. Jésus est descendant de David par la chair. C'est verset 3. Il est né de la descendance de David, c'est le terme physique qui fait référence même aux gamètes. C'est vraiment le côté humain. Le verset 4, c'est le côté divin. Il a été déclaré fils de Dieu. Il est le Messie, celui qui a été oint. Et il est expliqué que le résultat de l'évangile, verset 5, c'est l'obéissance de la foi qui résulte. Obéissance et foi vont toujours ensemble. Il y a un chant très beau qui s'appelle « Obéir et croire ». Si vous ne croyez pas, commencez par obéir. Si vous n'obéissez pas, commencez par croire. Les deux vont aller ensemble. Appelé par Jésus-Christ, verset 6, vous qui avez, il parle des saints, des gens qui ont été mis à part pour le service de Dieu. Le mot de saint, ça ne veut pas dire qu'on est des petits anges et qu'on n'a plus aucun péché dans notre vie, mais qu'on fait partie du corps de Christ, qu'on a accepté le Seigneur, et là, on est appelé saint. Certaines traductions disent que vous êtes, tous ceux qui sont à Rome, bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Ça encore, c'est la banlieue pharisienne. C'est l'idée qu'il va falloir travailler pour être saint. Non, dès que vous mettez votre foi en Christ, la Bible vous appelle des saints. Vous êtes mis à part parce que vous êtes translaté du domaine des ténèbres au domaine de la lumière. Même si ça va prendre du temps à se manifester dans votre vie, il y a une transformation spirituelle immédiate. Appelé à être saint, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. La grâce et la paix. La grâce, on va en parler beaucoup. La grâce va transformer votre vie si vous prenez à cœur cette étude, si vous la méditez, si vous relisez, si vous lisez à l'avance, si vous vous posez des questions, si vous nous posez des questions. La grâce de Dieu, c'est cette faveur non méritée. Il nous aime alors que j'ai rien fait encore pour mériter son amour. C'est difficile à comprendre. Parce qu'on vit dans un monde où on nous dit « si tu fais cela, alors tu vas mériter quelque chose d'autre ». J'essaye avec ma petite fille de ne pas lui dire « si tu finis ton jambon, tu auras une petite glace à la fin du repas ». Je le fais malheureusement, mais j'essaye de me reprendre parce qu'on apprend l'inverse de la grâce. La grâce, c'est comme être un bon papy qui ne cherche pas à comprendre, qui donne et qui aime. La grâce de Dieu. Et la grâce, elle est. Il leur dit la grâce et la paix vous soient données. C'était les salutations. La grâce, c'était le mot grec, le salut grec. La grâce, charis, c'est une idée de joie. Et puis la paix, c'était le mot hébreu avec lequel on disait bonjour aux gens, shalom, shalom. Et quelqu'un faisait justement remarquer que ces deux mots, dans les salutations de Paul, sont toujours donnés dans cet ordre-là. D'abord la grâce et la paix. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas connaître la paix de Dieu tant qu'on n'a pas reçu sa grâce. Si on n'a pas reçu sa grâce, on reste en banlieue pharisienne et on ne peut pas avoir la paix. On ne peut pas recevoir tout ce que Dieu veut nous donner. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces quelques versets qui déjà sont si riches de sens et si puissants, Seigneur. Et notre prière, c'est que vraiment nous soyons transformés par l'étude de cette lettre, Seigneur, qui a révolutionné la vie de l'Église, la vie de personnes innombrables dans l'histoire de tes saints, Seigneur, et on veut croire que tu, cette puissance n'a pas diminué d'un poil, Seigneur, qu'elle est toujours de la dynamite pour transformer nos vies, Seigneur. Apprends-nous à être des receveurs de ta grâce, Seigneur, et à pouvoir recevoir ta paix et en même temps communiquer cette merveilleuse nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ, de sa grâce. Amen.